un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
C'est un sujet qui nous intéresse comme un petit phénomène circonscrit, un milieu qui ne concerne qu'une poignée de personnes, mais en fait rêver bien d'autres. Sur le thème, il y a même une série qui s'appelait « Drôle » et portait mal son titre, n'a connu qu'une saison, mais a eu le mérite d'essayer de parler de tous ces jeunes gens qui montent sur scène avec de la gouaille et des blagues plus ou moins réussies, mais qui prennent des risques, qui osent et assument la potentielle plantade à la recherche du succès. Faire rire, évidemment, c'est rare et ce n'est pas du tout le but de cette émission, ça se saurait, et même si ça l'est parfois, on fait ça discrètement. Les deux histoires qu'on a choisies aujourd'hui, celle de Judith et celle de Louis, racontent en revanche comment ils en sont arrivés là, à essayer de faire rire tout seul, comme ça, planté sur une scène. Des histoires que nous avons trouvées touchantes, singulières, parce qu'elles disent quelque chose de profond, ou du moins que la superficie qu'elles couvrent est assez étendue. Faire rire, un épisode sérieux, agrémenté d'un extrait de la Queen du genre, Blanche Gardin, celle qui a changé la face de ce monde. Un passage, je vous préviens, assez cru, qui n'est pas à laisser traîner entre toutes les oreilles. Reportage Alain Levkovitch.
Je m'appelle Judith Margolin, je suis comédienne et autrice et aussi scénariste. J'écris depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, mais il y a un événement voilà, en particulier qui a déclenché une envie d'écrire pour la rigolade, pour faire rire en effet un public. C'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais 23 ans, voilà, et l'histoire d'une soirée, d'un rendez-vous avec un acteur que j'avais rencontré sur un tournage. Moi, j'étais silhouette. Silhouette, c'est quand en général, on a soit une phrase, soit juste on est vu à l'image, mais on n'a pas de rôle défini. Donc voilà, moi, j'étais silhouette sur un film d'époque où je jouais une paysanne et lui, il jouait un gendarme voilà, d'époque, mais il avait un vrai rôle, quoi. Il avait un vrai personnage. Et j'avais été impressionnée par lui à ce moment-là. Et le fait d'être une jeune actrice qui débute et lui, un acteur qui semblait voilà, plus reconnu, plus confirmé, il y avait aussi ce rapport un peu de puissance, de force, et avec lequel j'ai décidé de... disons, de passer la nuit au départ, c'était un peu l'idée. En fait, on a d'abord été au restaurant. Et puis, moi, je sais pas, il était un petit peu plus âgé que moi, j'étais assez stressée. En fait, je sentais que dans mon corps, il y avait quelque chose de pas très aligné avec ce rendez-vous, l'énergie du mec, l'atmosphère, je sais pas, je me sentais pas très bien. Mais j'avais très envie de continuer cette soirée avec lui. Et donc, déjà, au-dessus du poisson qu'on avait commandé, je me rappelle, on s'est embrassés. Et juste après qu'on se soit embrassés, il m'a soufflé dans l'oreille une phrase qui est une phrase qui ouvre mon spectacle aujourd'hui. Il m'a soufflé « ça y est, je bande » dans l'oreille. Voilà. Ce qui est surréaliste, c'est que le gars était tellement sûr de lui, de son charisme, de son aura. Ça m'a tellement cueilli que j'ai pas eu le temps de réagir, quoi. Il y a une partie de moi qui trouvait ça vraiment inélégant au possible et une autre partie qui était là. Ah, le pauvre, bah ouais. En même temps, il me désire, quoi. Il l'a mal dit, c'est mal sorti. Mais l'info essentielle à retenir, c'est qu'il me désire. Donc, j'ai de la chance. C'est cool. Vraiment, à cette époque-là, c'était un mec qui bande, c'était comme un sceptre, quoi. C'était comme un totem... gagnant, voilà, c'était un truc qu'il fallait honorer, quoi. Donc, même si c'était absurde et un peu ridicule, j'avais pas assez confiance en moi et j'avais pas assez de recul pour tout de suite me dire « Bon, on va s'arrêter là, on va demander l'addition, puis je vais rentrer chez moi. » Et puis, juste après ça, on parlait de la vie d'actrice et il m'a dit « Quel est le rôle que tu rêverais de jouer ?» Et moi, c'est vrai que, bah, en plus, je commençais et j'adorais La Mouette de Tchekhov, qui est l'histoire d'une actrice. Et il m'a dit, oh là là, mais toutes les actrices veulent jouer ça, c'est hyper banal, c'est dommage, tu m'as pas donné la bonne réponse. Donc, il y avait quand même des signaux, comme quoi ce type était pas très élégant. Mais je suis quand même partie avec lui. Je me souviens très bien de la route pour aller chez lui, dans le 20e arrondissement à Paris. Je marchais tout en reculant dans ma tête. Et je me souviens qu'il m'a fait danser dans la rue. C'était très maladroit, c'était très faux. C'était comme une comédie musicale un peu ratée, un La La Land un peu foireux. J'y allais, mais voilà, en sentant tous les voyants à l'intérieur qui étaient au rouge. Mais j'avais besoin d'être vue, d'être aimée, comme beaucoup de gens. J'étais un peu en détresse à ce moment-là. J'arrive chez lui, et donc lui, à peine arrivé, me dit « il faut que je sorte promener mon chien ». Donc je dis « ok ». Il m'a laissé là, paf, dans son salon, au milieu de ses scénarios, de ses meubles, chinés en brocante, voilà. Et moi, je me suis retrouvée là, un peu comme une cruche. J'attendais comme ça, plantée un peu dans le salon, et puis d'un seul coup, j'ai eu très mal au ventre, et j'ai senti que j'avais un besoin irrépressible d'aller aux toilettes. Voilà, vraiment un truc terrible quoi. Et je me dis bon bah qu'est-ce que je fais ? Enfin, soit je pars mais je suis trop loin de chez moi. Enfin, il fait nuit, il est tard, etc. Soit je trouve l'endroit où je vais pouvoir me libérer en gros. Et donc je cherche partout, je visite un peu l'appart, je cours partout. Je suis vraiment pas bien du tout. Et je trouve donc la salle de bain et il n'y avait pas de porte, il y avait juste un rideau. Il y avait juste un rideau. Et je me dis, mais c'est pas possible. En plus, c'est une salle de bain qui donne sur la chambre. Comment je vais faire? Ça va être une catastrophe. Et je me libère. Voilà, ça, je le dis hein, comme c'était. C'est hyper gênant, mais en même temps, je peux pas lutter. Et en fait, je me dis, OK. Donc là, il y a une espèce de compte à rebours qui est lancé. Je sais pas du tout combien de temps ça prend de promener un chien. J'ai jamais promené un chien de ma vie. Est-ce que ça prend 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes? Est-ce qu'avec un peu de chance, ça prend un quart d'heure? Vraiment, j'ai cette sensation que, ouais, que je suis dans un film d'action. Il allait rentrer à tout moment et je voulais pas qu'il me trouve là. Moi, la petite Minette qui était super apprêtée il y a 2 secondes, je voulais pas qu'il me trouve sur les toilettes dans sa salle de bain. Je me dépêche, je me grouille, je suis en tension totale. Et je finis par sortir de la salle de bain. Juste à temps, je me remets à ma place comme une espèce de petite poupée dans le salon, hyper figée. Mais en vrai, j'ai des gouttes de sueur sur le front. Enfin, je sais pas ce que j'ai, mais il y a un truc qui va vraiment pas. Et lui revient. Il me dit, qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Je suis restée là. J'ai pas bougé. Genre, j'étais sage. Je l'attendais. Et là, donc, on va dans la chambre. Et les choses commencent à devenir un peu plus intimes. Et puis, en fait, le gars s'arrête d'un coup et il me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais ça pue ici !» Et donc là, je lui dis « Non, tout va bien, je sais pas. » Il me dit « Mais merde, non, c'est horrible, c'est pas possible cette odeur, c'est atroce !» Et il commence à chercher partout dans sa chambre. Il me dit « Ah non, c'est mes chats, ah c'est sûr, ah là là, ils ont pas été dans la litière, ah ça m'énerve, putain !» Et moi, je suis sur le lit comme ça, étendu, à essayer de jouer les bombasses. Et puis au bout d'un moment, donc il revient vers moi, donc on est là tous les deux sur son lit, et puis ça se passe pas très bien. Les corps ne s'accordent pas, on va dire. Il est pas très adroit, il est pas très tendre. Moi, je me dis il se passe ce qui devait se passer, mais en même temps pas du tout dans le contexte que j'imaginais. Et en fait, voilà, en vrai, dans mon corps, je suis plus là, quoi. Je j'arrive plus à être excitée. Mais je suis à une époque de ma vie, aussi à un moment où j'ai la vingtaine, début de vingtaine. Et pour moi, être désirée par un homme, c'est comme si c'était un peu un cadeau. Je ne connais pas la notion de consentement. Je me dis maintenant que je suis allée jusque-là, il faut que j'aille au bout de mon projet, quoi. C'est trop tard, c'est de ma faute, j'avais qu'à pas y aller, quoi. Et puis, il me suggère très, très fortement de lui faire plaisir. Il met vraiment son sexe au-dessus de mon visage, quoi. Et moi, j'ai pas envie du tout, en fait. Et donc, j'essaye de me détourner de façon un peu polie, un peu genre, on est en train de faire un jeu et tout ça. Mais en fait, ça va pas du tout. Et lui s'arrête comme ça, d'un seul coup. Et il me dit, alors, t'as pas envie? Je dis, non, j'ai pas très envie. Si, mais non, mais pas maintenant, mais pas comme ça. En fait, je reste quand même toujours dans mon rôle, entre guillemets, de jeune fille un peu quand même soumise. En fait, je prends soin de lui, quoi. Je prends soin de lui, de son égo. Je veux surtout pas qu'il se vexe. Je veux pas qu'il le prenne mal. Je veux avoir l'air super cool. Et puis, il se redresse comme ça. Et il me dit, Bah alors, quand même, avec... il avait une voix un peu de crécelle comme ça. Et il me dit, t'aurais pu me sucer, connasse. Et là, je me bloque. Le temps s'arrête dans cette pièce. Vraiment, le temps s'arrête. Et moi qui étais en lutte avec ce que je ressentais dans mon corps et ce qui m'était arrivé juste avant qu'il revienne, d'un seul coup, tout s'aligne. Ma tête et mon corps, on se réconcilie. Et je le regarde et je lui dis, non, en fait, c'est pas possible, on ne parle pas comme ça. Et je me redresse et je m'habille. Il me regarde et il me dit, mais enfin, tu vas pas partir comme ça, ça va, moi je traite toutes les meufs de connasses, c'est affectueux. Je lui dis, ah non, en fait, moi ça me convient pas, j'ai pas envie de rester là. Et d'un seul coup, je suis plus la même, quoi. J'ai une espèce de force à l'intérieur de moi, mais une force inconnue, parce que jusqu'ici, j'étais quand même plutôt une fille assez docile, quoi. Beaucoup trop docile, même. Et donc, je me lève et puis, il me dit... Ah, tu te casses. Ah, vraiment, tu te casses. Eh ben, tu sais quoi, vas-y, casse-toi, là. Va jouer ta mouette, là. Va jouer ta mouette. Et il se fout de ma gueule par rapport à ce que je lui avais dit au restaurant. Et il me dit, de toute façon, t'es personne. T'es personne. J'ai eu peur, en fait. J'ai senti, d'un coup, beaucoup de colère en lui. Et je me suis rendu compte de là où j'étais, que j'étais seule face à lui, qu'il pouvait se passer n'importe quoi. Et que mon corps me l'avait dit et que j'avais pas écouté. Et donc, je sors de là. Je claque la porte de l'appart, je claque la porte de l'immeuble, je suis dans la rue comme ça, dans la nuit, je cours et tout, j'avais l'impression d'être dans un film. Et vraiment, je m'enfuis, quoi. Je suis rentrée et j'ai appelé tout de suite un pote qui dormait pas. Je me souviens, je me suis assise par terre dans mon petit studio et je lui ai raconté tout ce qui venait de se passer. J'avais une espèce d'euphorie, en fait. Je lui disais, mais je suis partie, quoi. J'ai dit non. J'ai fait quelque chose que j'avais jamais réussi à réellement faire, en tout cas dans mon rapport avec les hommes, jusqu'ici. Et en fait, ce récit, je l'ai fait après toute la semaine à toutes mes potes. Je leur racontais cette histoire. Une copine m'a dit, note, parce que tu vas oublier. Tu vas oublier des phrases, tu vas oublier des trucs. Et moi, à l'époque, j'écrivais pas du tout. Donc, j'ai dit OK, j'ai noté quelques trucs comme ça, quelques bribes dans un cahier. Et puis, j'ai avancé dans ma vie. Et en fait, c'était ma première histoire de consentement. Mais j'avais pas de mots pour le définir à l'époque, quoi. Des années plus tard, je suis comédienne. J'essaye toujours de... Voilà, le désir des autres, d'être choisie, d'être sélectionnée. Je passe des castings, je joue dans des spectacles. Ma vie avance et je vis quand même ce métier. Et puis un jour, je me retrouve un peu en galère. J'ai l'agent que j'avais à l'époque qui me dit « Ouais, Judith, écoute, on a, je sais pas, les directeurs de casting ne veulent pas te rencontrer. Ça marche plus, tes photos. Il y a un truc qui marche pas. On fait un écrémage, là. On va se séparer de 15 personnes dans l'agence. Et on est désolé, mais tu en fais partie, quoi. » Et là, je me retrouve un peu perdue. C'est 10 ans après cette histoire, donc j'ai 33 ans. Je me dis, OK, bon, bah, je vais revoir ma manière de faire. Et puis surtout, je vais essayer d'aller faire des stages, travailler. Et on me parle d'un training d'acteur. Et donc, j'arrive là-bas et il y a un super coach qui fait travailler justement un peu à l'américaine sur savoir d'abord qui on est de façon extrêmement personnelle pour pouvoir devenir un artiste unique. Donc, il me dit, tous les 3 mois, il y a un challenge. Moi, je vous propose de faire le truc qui vous fait le plus peur. Et donc, je lui dis, moi, le truc qui me fait le plus peur, clairement, c'est d'écrire pour faire rire. Moi, je fais rire mes potes depuis toujours, mes copines de lycée et de collège, leur imitaient les profs à la sortie des cours et tout ça. Enfin, voilà, j'ai toujours aimé faire rire, mais c'était dans l'intime, quoi. Et puis là, d'un coup, écrire pour faire rire, et il dit un truc qui dure pas plus de 10 minutes. Et donc, j'exhume cette histoire 10 ans après. Et je me dis, bien sûr. Et en fait, j'écris cette histoire et je la présente au training devant tout le monde. Je le joue et tout le monde se marre et les gens trouvent ça extra. Et là, du coup, j'ai une forme de déclic et je me dis, c'est génial. Enfin, la sensation que tu as quand tu as écrit un texte et que tu le joues et que les gens se marrent, mais vraiment se marrent, mais c'est une espèce de drogue, en fait. C'est une espèce de drogue. Et je me dis, mais j'ai envie d'y goûter, quoi. J'ai envie d'en reprendre. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour en reprendre? Ben, je vais écrire plus. Je commence à vraiment me mettre à faire une liste, en fait, de toutes les galères qui me sont arrivées. Les boulots de merde que j'ai fait pour être actrice, quand je bossais au salon de l'agriculture, au stand des produits laitiers, les goûters d'anniversaire pour enfants, les galères familiales, plein de choses comme ça. Je fais une espèce de liste, quoi. Et j'arrive à les relier ensemble, quoi. Et puis, en fait, je me rends compte que le fil conducteur de tout ça, ce sera cette nuit, ce rendez-vous avec ce fameux « ça y est, je bande ». Et en fait, tout ça a créé un ensemble qui est devenu mon spectacle, qui s'appelle « Mudit Monrovitz, la réincarnation Ashkenaz de Marilyn Monroe ». Et en fait, d'avoir joué seule et faire rire autant de gens, ça a changé ma vie, quoi.
On a pensé qu'on allait tout régler avec une formule, quand c'est non, mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'une fois que t'as dit ça, t'as rien dit, parce qu'en réalité, bien souvent, quand c'est oui, c'est non aussi. Hein? Enfin, si moi j'avais refusé de coucher à chaque fois que j'avais pas eu envie, je serais jamais restée avec un mec plus de 3 mois, quoi. Enfin, c'est la réalité, on le sait, les femmes, une fois qu'on est dans une relation, très souvent, on baise sans en avoir envie. Alors, ça posait pas de problème avant, parce qu'avant, il y avait un échange avec le mec. C'est-à-dire qu'avant, on baisait autant de fois que le mec voulait baiser, mais en échange, on avait un confort matériel, il y avait une sécurité, il y avait quelque chose. En plein hiver, il sortait, il allait couper du bois sous la neige, il allait tuer des chevreuils pour nous nourrir et nous faire des robes, et quand il rentrait, on lui suçait un peu la bite, et même si ça sentait un peu le castor, il y avait un win-win. Il y avait quelque chose, en fait, qui se passait. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est égaux, il n'y a plus d'échange. Tu rentres d'une journée de boulot, t'es crevé, il faut lui sucer la bite s'il a envie d'avoir la bite qui fait qu'il a sucé. Et après, il faut écouter ses problèmes. Non, il y a un malaise là, il y a un gros malaise. Parce que c'est un acte magnifiquement pur et bon de se donner à quelqu'un comme ça entièrement alors qu'on n'en a pas envie, mais même une sainte ou Mère Teresa, aussi, il faudrait être une sainte ou Mère Teresa pour pas demander de contrepartie, je veux dire. Et les saintes, ouais, elles couchent pas, hein, comme par hasard. Et Mère Teresa, elle est décédée. Donc, moi, ce que je propose, c'est peut-être pour rétablir la paix au sein des couples, entre les hommes et les femmes, peut-être que ce serait bon que dans le couple, les hommes versent un salaire aux femmes pour tout le sexe qu'elles font sans en avoir envie.
Je m'appelle Louis Chappet, j'ai 25 ans et je fais du stand-up, je suis humoriste depuis 6 ans à peu près, dans les comédies clubs et depuis quelques temps un spectacle. L'envie de faire rire, déjà moi ça me paraît bien naturel, tu vois. Je conseille à tout le monde, hein, c'est gagnant-gagnant, quoi. Les autres rigolent donc ils sont contents, toi tu les as fait rigoler, t'es content, tout le monde est content. Moi après j'avais envie de faire de l'humour... Ça avait l'air cool et tout, parce que j'avais vu Gad Elmaleh assez jeune. Tu vois, je me dis, même dans la tête d'un enfant, quand tu vois ça à 7, 8 ans, 6 ans, ça, c'est un concept qui n'a aucun sens avec le reste de la réalité, parce que le reste de la réalité, c'est un peu, tiens-toi sage, fais gaffe, attends. Et là, c'est, faites du bruit. En vrai, dans la vie d'adulte, et pour un enfant, tu vois jamais les adultes faire du bruit. Tu te dis, mais c'est quoi cet endroit? C'est quoi? C'est qui? Et ouais, donc, je pense que ça m'avait plu et tout. Mais ensuite, j'étais geek de comédie, quoi. Je voulais tout voir. Il y a toutes sortes de films, mais en vrai, comédie, c'est les meilleures intentions. Les Marx Brothers, les Woody Allen, les comédies italiennes. Moi, je regardais tout, toutes les formes d'humour. Le clown, le stand-up. Ce que j'aime bien dans le stand-up, c'est le côté, par exemple, c'est un peu un art, mais c'est quand même aussi un divertissement. Enfin, il y a quand même une rentabilité, un truc concret. Il y a quand même un objectif, parce que les gens, ils rigolent ou ils rigolent pas, quoi. Tu sais pas trop si les autres t'aiment bien ou pas, mais si tu les fais rigoler, t'as une petite confirmation, quoi. je rigolais hier avec un pote, il me disait ouais, ce que tu fais, faut être capable, est-ce que tout le monde y peut le faire et tout. Moi je me disais que c'est une question de désir, dans le sens où je pense que avant d'être marrant, c'est à quel point aussi ça compte pour toi d'être marrant, je crois. Dans ma famille ou même chez mes potes, si t'es drôle, c'est quand même peut-être une des plus belles qualités. Et si on veut aller dans des théories profondes, comment on se retrouve à vouloir faire rire, peut-être moi de mon histoire, moi je suis arrivé dans une famille où avant que je naisse, il y avait eu un deuil, il y avait eu un décès, le père de mon frère, le mari de ma mère, donc elle était veuve et orphelin. Ils avaient vécu quelque chose de plus ou moins traumatisant et elle a rencontré mon père, ils sont un peu redevenus heureux, ils m'ont eu, il a adopté mon frère, ils ont reconstruit une famille avec tout ça, une famille recomposée, pour dire cette expression. Enfin, moi j'avais une version de l'histoire où je me disais, avant que j'arrive, c'était chargé émotionnellement. Et c'est compliqué, quand j'arrive, ça ressemble un peu à une famille, quoi. Enfin, tu vois, quand t'es enfant, tu crois que tout est prévu. Mais c'est vrai que, par le fait de juste ma naissance, mon existence, ça crée un schéma, un équilibre. Donc déjà, je sais pas, j'ai sauvé dans le sens où, waouh, il était tellement cool, il nous a sauvés. C'est déjà juste par le fait que, dans ces événements, je suis arrivé à, comme un événement de vie, après un événement de mort. C'est assez marrant quand je regarde les photos, des fois je vois des têtes, je dis ah ouais, ça allait pas bien. J'ai assez vite réalisé par exemple que j'avais un peu été, que j'étais chanceux dans cette histoire. Moi j'avais mon père biologique, c'était lui qui nous élevait, j'ai pas eu de décès, mon frère je l'aimais, ma mère, tout ça. Et pour mon frère c'était un peu plus délicat, pour eux tous c'était un peu plus délicat même. Et du coup peut-être que ma présence, je me suis dit qu'il fallait qu'elle soit légère et joyeuse, et que quand j'arrivais dans tout ça, c'était que pour faire kiffer, pas pour ajouter du stress ou des angoisses ou des problèmes. Enfin, je sais pas, en tout cas, j'étais content quand je voyais mon frère des fois, que quand il allait pas trop bien et que j'arrivais à lui faire des blagues, à le faire relativiser, après il allait un peu bien, et je rigolais en disant c'est ça, c'est ma fonction, je suis là pour sauver les gens et tout. Et ma mère, elle me disait qu'elle m'avait répété ça quand j'étais petit, que je l'avais sauvé un peu. Donc peut-être elle m'avait planté des graines psychologiques inconscientes. Maintenant, je crois qu'il faut que je sauve les gens par le rire, je sais pas. Je pense pas que tu puisses sauver les gens, mais tu peux mettre un peu d'arnica, quoi, un peu de pommade, tu vois. C'est de la biafine, on met de la biafine. Ça brûle toujours un peu, mais ça brûle un peu moins. Évidemment, tu vois, là, on en rigole. Enfin, je le dis un peu légèrement. C'est un peu, des fois, des théories. Enfin, on va les prendre pour vrai. C'est un peu... Après, j'ai fait de la psychanalyse et tout. Dans ma famille, c'est la religion. Ils vont tous voir des psys et tout. Moi, petit, même, j'étais jaloux. À un moment donné, je dis, pourquoi tout le monde veut voir un psy, pas moi? C'est pas bien. Et donc, après, on a analysé, on s'est posé des questions. Mais ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup de, peut-être, de ce que j'ai pu être, a pu être parfois en réaction, ouais, à ce qui était déjà préalable, quoi. Mais ouais, non, j'aimais bien, au-delà de juste l'humour, j'aimais bien essayer d'apaiser les choses, c'était l'objectif. Parler et tout, je me rappelle, ils étaient trois en plus de moi. Et souvent, du coup, ça faisait des deux contre un. Moi, souvent, je me ralliais au dernier. C'était plus mignon, quoi, c'était plus... Je sais pas, quand tu commences un match de foot, t'es pour l'équipe qui perd, si t'arrives en cours de match, quoi, tu vois, c'est le concept. La comédie, c'est ça, quoi, de toute façon, Chaplin et tout, c'est le petit contre le grand. Mais en tout cas, il y avait le tentative d'apaisement et d'analyse et tout. Ma mère, elle croyait que j'allais devenir psy et au final humoriste, qui est peut-être un peu le cousin, je sais pas, le truc de... Et le même côté où tu essaies de dire, tiens, on a ce genre de comportement, mais j'essaie de te les proposer de manière punchline, quoi, comique, quoi. Tu vois, là, j'en fais un portrait quand même où peut-être on dirait, je suis arrivé dans une famille morose et j'étais le clown. Pas du tout, en vrai. Ils étaient drôles. Tous, ils étaient drôles. Même, j'étais pas drôle parce que j'étais le plus petit. C'est trop dur de faire rire les adultes. Mais en fait, c'était même aussi dans leur forme d'humour. Et c'est pour ça, peut-être, que j'arrivais pas à les faire rire. C'est qu'on était surtout drôles socialement. Tu vois, par exemple, si tu rencontres ma mère lors d'un dîner, lors d'un café, un truc, c'est sûr que ça va être marrant. Elle va être marrante. Mais moi, dans l'intimité, tu vois, c'était plus, on parlait de sujets sensibles, intimes. Ça va bien, en vrai. Louis, tu fais quoi? Tu vas vraiment bien, bien, ou tu vas pas bien, bien? Les mondanités, on savait faire. Et dans l'intimité, c'était, fallait parler des sujets sérieux. Et du coup, voilà, quoi.
J'aime bien les disputes familiales. Tu sais, c'est quasiment une performance artistique, quoi. Ça va tellement loin en partant de rien. Waouh! Ah, je te jure. Mon frère et moi, on commence sur des vrais trucs de merde. Genre, gros, t'as pas fait la vaisselle? Non, c'est toi, tu devais faire la vaisselle. Et me demande pas pourquoi, mais 30 minutes après, on est là. Au fond, je crois, papa, il t'a dit des choses à toi qu'en fait, à moi, il a peut-être pas dit, en fait. Je suis jaloux des gens qui ont un lave-vaisselle. J'ai l'impression dans cette vie, quand t'as un lave-vaisselle, c'est un privilège. T'as la maison, un petit lave-vaisselle qui t'attend, c'est un privilège en vrai. Et crois, pourquoi je suis jaloux des gens qui ont un lave-vaisselle, c'est que normalement, je m'y connais bien en privilège, tu vois. Parce que j'ai fait le compte, je suis un mec blanc, hétérosexuel, cisgenre. Franchement, les amis, il manque un lave-vaisselle. Sincèrement, un lave-vaisselle et je suis bien. Un lave-vaisselle et je peux rentrer chez moi le soir sans crainte de me faire agresser sexuellement, sans crainte de me faire agresser de manière raciste, sans crainte de me faire agresser de manière homophobe, arriver chez moi, ouvrir la machine et faire, ouh, elle est encore un petit peu chaude. Arrangerai demain et aller me coucher en me disant que je mérite tout ce que j'ai. Ouais, un lave-vaisselle, tout va bien. C'est n'importe quoi. Les humoristes noirs vont te parler de racisme, les humoristes gays d'homophobie. Et moi, comme il n'y a pas de problème, le lave-vaisselle, on va en parler.
Le côté vraiment la situation familiale en profondeur, comme là je la raconte en intimité et tout, je l'ai pas raconté. Ça m'est arrivé de le faire sur scène, mais c'est pas dans le spectacle, quoi. Je raconte une gifle que m'a mis ma mère, tu vois, mais je raconte la violence des darons blanches bobo, tu vois. Quand elle te met une gifle, on dirait c'est elle qui vient de se la prendre, tu vois. Et là, ah, t'as vu ce que tu viens de me faire faire, tu vois, c'est des petites blagues, rien de méchant, vraiment, c'est très mignon. Et j'avais fait un truc sur le fait que mon frère et moi, on était demi-frères. Je voulais vanner cette expression parce que je la trouvais dégueulasse, quoi, tu vois. Ça, tu dis, ça, c'est mon frère, ça, c'est ma sœur, ça, c'est mon demi-frère, tu sais. Alors qu'en 2023, même l'épicier, je l'appelle frère, tu vois, c'est très grave de dire demi-frère à propos de quelqu'un qui est quasiment, enfin bon. Donc c'était des vannes un peu là-dessus sur le fait qu'on a, mais c'était, je débutais, tu vois, il y a des sujets comme ça, des fois on se dit trop tôt, tu vois, il y a des sujets, tu les as, ils sont trop intimes, trop intenses, trop graves, trop, j'étais pas encore capable au tout début de le faire, là peut-être dans le prochain spectacle, ouais, ouais. J'ai déjà un peu des idées, mais je sais pas s'il faut que j'en parle, je sais pas s'il faut que je spoil. Et puis après, le public, c'est mon frère.
C'était Faire rire, les stand-uppers, un reportage d'Alain Lefkovitch réalisé par Sylvain Richard. Notre attaché de production, c'est Céline Paris. Notre stagiaire, c'est Rita Ruggirello. Et nous remercions pour cet épisode Judith Margolin et Louis Chappet.